Voilà, donc maintenant je vous présente Pierre Besse. Donc, bon, en 2004, quand j'ai découvert les travaux qu'il y avait sur le BRF, j'ai dit, ouais, c'est génial, c'est formidable. Et on est en train de découvrir un truc fabuleux. Et puis en France, c'est très peu connu. On pensait être quand même parmi les pionniers. Puis Jacques Dupétier est arrivé là-dessus. On s'est dit, voilà, c'est le pionnier. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient fait ça depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps. Et donc voilà, donc c'est l'exemple, c'est entre autres Pierre Besse qui est en Haute-Garonne, pas très loin d'ici. Voilà, et qui va nous parler de son travail, donc qui va bien au-delà du BRF, bien sûr. Voilà, donc c'est à toi, tu as une quarantaine de minutes pour en comptant les questions. Voilà.
Donc moi je suis maraîcher depuis maintenant 22 ans à côté de Toulouse. Voilà donc je vous montre une série d'images prises sur le jardin et puis on va essayer d'aller assez vite, il y en a pas mal. La première chose, c'est un peu un principe qu'on a adopté depuis maintenant 5 ou 6 ans, depuis 2006 en fait, dans le jardin. On, c'est ma femme et moi, et on est maraîchers tous les deux ensemble, enfin, sur un demi-hectare de légumes, disons de production légumière, sur un total de 4 hectares de propriété. Pendant les presque 15 premières années de ma carrière, en fait, j'ai travaillé essentiellement avec un motoculteur, donc sur labour à la charrue japonaise, cultivateur, rotavator, donc les fraises aussi. On travaillait de moins en moins profond et de moins en moins souvent, mais en fait, j'ai quand même labouré beaucoup dans les premiers temps. Sur ce terrain ici qui est à la Gardelle-sur-Lèze, on a commencé à cultiver en 99, donc ça fera bientôt 15 ans. On a commencé par un labour classique sur de la prairie, en fait, c'était une prairie d'une petite dizaine d'années d'existence. Aujourd'hui, on travaille en 100% travail manuel, on n'a plus de machine à moteur sur le jardin, excepté une tondeuse à gazon qui nous sert à nettoyer les alentours du jardin. Et là, la photo est un peu floue, mais enfin, on distingue des planches de culture qui font en fait chacune 1,30 m de largeur, une là, une là, une là. Et on réduit, enfin, on concentre la circulation, que ce soit nous en marchant ou avec la boîte, sur le passe-pied qui fait 50 cm. Donc on a un motif d'1,80 m avec 1,30 m de cultivé au sens strict et 50 cm pour le passage. La raison, c'est que simplement, quand le sol est mouillé, si on le piétine, il est plus difficile à reprendre à la main. Donc quand on travaille au motoculteur, c'est différent, mais quand on travaille à la main, pour nous, c'est important. Bon, c'est un sol de boulben, c'est-à-dire le sol limono-sableux avec une teneur en argile faible. Et c'est une boulben de bonne qualité sur un substrat bien drainant. Donc, c'est un sol favorable pour la culture lumière. Ça, c'est une seconde image qui montre un peu ça. C'est les prises d'il y a 5 ans, à une époque où on faisait encore très peu de mulch. Donc, c'est du sol nu, sarclé régulièrement avec les outils manuels. Et donc, il y a trois rangs d'oignons sur la planche. Là, on ne voit guère que des oignons, des céleris de l'autre côté. Ça, c'est une autre image. Donc là, il y a une planche de fenouil avec deux rangs, une planche de haricots avec deux rangs, et ainsi de suite. Des oignons. Donc ça, c'est le schéma général d'organisation de jardin. Il y a quelques cultures qui échappent à ce schéma, c'est notamment les courges, parce qu'elles prennent beaucoup plus de place. Enfin, on verra tout à l'heure. L'outillage donc qu'on utilise aujourd'hui. Alors l'outillage, comme le disait Bernard, enfin j'ai bien aimé, ça évolue beaucoup. Donc il y a des outils que j'utilisais très couramment et que j'ai quasiment abandonnés, d'autres que j'utilise de plus en plus, et puis d'autres que j'utilise pas de la même manière. Effectivement, Bernard le signalait. J'utilise encore beaucoup le croc. Là, on en a trois ou quatre. Là, on s'en sert beaucoup. Des binettes en étrier. On n'a pas de semoir, on n'a pas de monteuse. Enfin, là aussi, de ce côté-là, on a essayé de simplifier au maximum l'outillage, les râteaux. Et puis après, surtout, on se sert beaucoup aussi les houes. Là, on voit en bas une toute petite houe, puis une autre un peu plus grosse. Je m'en sers encore beaucoup et peut-être même de plus en plus. On utilise ensuite beaucoup le cultivateur à roues. On en a deux. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil. Pour nous, aujourd'hui, il est assez fondamental, c'est-à-dire si on n'a pas ça, on est mal. Voilà les trois types d'outils qu'on monte sur le cultivateur à roues, hein, des lames oscillantes de largeur variable, un sarcloir d'angle, ce n'est pas le meilleur que j'ai eu, le meilleur, j'ai usé le fer au point qu'il est, j'en ai usé deux au point qu'ils sont fichus, il me faut trouver un forgeron pour me faire le bon fer, et puis la griffe. Voilà, donc ça c'est. Alors ensuite, une série de. Parce qu'en fait, on a une démarche très très pragmatique. Et donc, on fait un peu flèche de tout bois là. De plus en plus, depuis 5 ans surtout, on paille les cultures. C'est pas systématique, mais mais pas loin, avec des matériaux très divers. En fait, là, vous avez des tas de gazons qui ont été déposés par l'entrepreneur de parc et jardin du village, qui a deux employés, deux petits camions, et qui gère, je ne sais pas combien, il faudra que je lui demande, d'hectares de jardins chez les particuliers, et qui produit donc toute la saison, de mars à septembre, il génère du gazon, en fait, qu'il doit payer pour mettre en déchetterie, et donc il préfère déposer gratuitement chez nous, et nous, on apprécie. Donc du gazon, du bois broyé aussi, beaucoup. Alors du bois broyé, parce que je n'ose pas employer le terme de BRF, étant donné que là-dedans, vous avez des camions entiers de résine pure, des bois qui font pas nécessairement moins de 7 cm de diamètre, etc. Donc nous, on prend tout ce qui vient comme ça vient, sans se poser de questions. La pollution chimique éventuelle, c'est sûr que par-ci, par-là, il y a quelques sapinettes qui ont pris un coup d'aliette ou des choses de ce genre. On discute ça avec le certificateur qui nous donne le label bio, et pour le moment, ça pose pas de soucis. Je pense que c'est le bois broyé, c'est certainement parmi les matériaux les plus propres dont on peut disposer, parce qu'ensuite on a des pailles de céréales conventionnelles, on en échange un peu avec le voisin, il raccourcit pas son blé aux hormones, mais enfin, c'est pas bio, quoi. Voilà, alors les paillages ici, c'est il y a 3 ou 4 ans, donc des oignons installés sur sol nu et paillés après la plantation avec du carton d'emballage du récup et de la paille. Alors la paille en épaisseur de 5 ou 6 cm, c'est relativement transparent à la lumière, beaucoup plus que le gazon ou la feuille morte. Et donc on complémente souvent la paille avec une sous-couche. Aujourd'hui on fait avec du papier craft, parce que le carton c'est très long et compliqué à récupérer, il faut enlever les scotch et les agrafes. Ça marche très bien, ça dure longtemps, mais c'est assez difficile à grande échelle. Et donc on a acheté 2 ou 3 petits rouleaux de papier craft qui a un titre de test. C'est beaucoup moins durable que le carton, mais ça, effectivement, ça fait gagner peut-être 15 jours à 3 semaines sur la sortie des vivaces, notamment le liseron, tout ça qui passe à travers les mulches. Mais bon, c'est pas très très important. Ça, c'est une photo qui est prise au printemps cette année. C'est un peu flou aussi, c'est des carottes, des tomates sur des planches qui sont à 1,80 m d'axe à axe l'une de l'autre, hein, c'est le schéma de planche non piétinée de passe-pied, installées sur une couverture de gazon. Donc là, on voit très vite, on dépose le gazon à la brouette et on le légalise sommairement au croc. On plante à travers le long de la gaine de goutte à goutte qui est sous le mulch. Donc après, les tomates, elles sont conduites en cage dans du grillage à mouton. Ça, c'est une technique que certains d'entre vous doivent connaître aussi, hein. Et le passe-pied dans les cultures de tomates, certaines années, on le gère à la tondeuse à gazon en passant 3 ou 4 fois. Certaines années, on le sarcle avec les outils, avec la houe à pousser, quoi, le cultivateur. Ça, c'est 2 planches contiguës qu'on a réunies. Et là, on a paillé aussi le passe-pied avec du gazon au mois de janvier ou début février. Et 4 mois après, là, début mai, on a planté dedans des petites courges. La photo qui est là la montre mieux. Ça, c'est des pommes d'or et pommes marines qu'on a installées sur ce couvert, en ayant, malgré tout, arraché pas mal de chardons. Ce coin-là, c'est une grosse tache de chardons. Donc, durant, disons, juste avant d'installer les plants et ensuite pendant la culture, on est repassé sur ce petit bout de planche de 20 mètres par 5, là, pour arracher du chardon, mais on a eu un très très bon résultat. J'ai pas d'image de la culture, mais c'était vraiment très joli. Ça. Donc là, zéro travail de sol, évidemment, parce que le mulch, on l'a déposé sur un sol enherbé. Et il était assez épais, il y avait 10 bons centimètres de gazon, c'est très étouffant. Il n'y a que les vivaces après qui passent. Ça, c'est une culture d'un rang de rhubarbe, il y a 35 mètres avec un plan au mètre, qui a été installé, ça c'est ma femme qui s'en est occupée, il y a 3 ans. Avec du carton d'emballage et une bonne couche de bois broyé. Il y avait 10 cm, à peu près 8 ou 10 cm de bois broyé. Donc on a eu 6 mois de tranquillité totale, le temps que les plants démarrent. Et aujourd'hui, on fait 4 récoltes par an sur cette rhubarbe, avec un passage au printemps pour déraciner la végétation spontanée qui pousse au pied. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on remulche avec les limbes des feuilles, en fait, quand on récolte la rhubarbe, en les disposant soigneusement. Il n'y a plus de travail de sol du tout sur cette planche et elle donne ses 4 ou 5 récoltes tous les ans. Autre motif technique, donc association de culture, on n'est pas des spécialistes de l'association de culture. Jusqu'à maintenant, le schéma essentiel, c'est quand même une culture par planche à la fois. Donc quand on plante les tomates, il n'y a que des tomates. Quand on fait du fenouil, on met deux ou trois rangs, mais en général, on met rien d'autre. Mais de plus en plus, on cherche à associer des cultures pour valoriser le plus possible le travail, la fertilisation, l'irrigation, etc. Et aussi pour limiter l'enherbement. Là, c'est des laitues dans les oignons. Ça va bien jusque sur la fin du cycle des oignons où on évite de mettre des laitues pour ne pas avoir à contrarier l'arrosage que demandent les laitues et le sec que préfèrent les oignons en fin de course. Mais ça fonctionne bien. Ici, on voit des plants de choux installés peut-être 15 jours ou 3 semaines avant la récolte des oignons. Donc ça fonctionne bien. Quand le mulch est suffisamment épais et qu'il tient assez longtemps, on a quasiment pas besoin de le renflouer. On peut faire deux cultures dans la foulée, l'une derrière l'autre. Et donc classiquement, c'est, de plus en plus, on met les choux comme ça dans les oignons sans aucun travail de sol préalable. Ensuite, d'autres schémas très classiques. Là, c'est des choux raves avec des laitues semées au milieu du rang. Là, il y a des épinards dans les poireaux. Donc les poireaux, la laitue de plus en plus, le radis de tous les mois, c'est toutes ces petites cultures, quasi systématiquement, aujourd'hui, on les intercale dans les 40 ou 50 cm qu'on a entre les rangs de carottes, de poireaux, etc. Mais bon, ça c'est très classique. Ça c'est notre partie du jardin où on voit une planche de blettes, une planche de melons, une planche de poivrons, une planche de tomates derrière. De toute façon, il y a, sauf cas particulier, le cas particulier c'est les pommes de terre qu'on fait en bloc en général, encore que. Sinon, il y a rarement plus de deux planches contiguës de la même culture, donc c'est toujours très mélangé et on n'a pas de système de rotation établi. Donc en fait, c'est un peu au petit bonheur, au moment de mettre en place une culture, on cherche où est la zone, où sont les planches les plus aptes à recevoir la culture avec le moins de travail. De même, au moment de choisir le type de mulch qu'on va mettre sur une culture, en fait, on cherche le tas qui est le moins loin, quoi. Et c'est de la paille, c'est du bois broyé, c'est du gazon, on prend ce qu'il y a. Alors, les mulches, en général, quand c'est juste pour la saison, on dépose des couches de 5 cm, ou un peu plus, c'est entre 5 et 10 cm. Et en fin de saison, compte tenu qu'on arrose, nous on a des sols séchants et un climat plus sec que dans les Pyrénées, et puis bon, on n'est pas encore assez peut-être, décomplexé par rapport à ça, mais on arrose beaucoup. Le constat, c'est que les mulches fondent à peu près à 80% ou 90% dans les 4 à 6 mois de saison. Ils fondent aussi vite quand c'est du bois broyé grossier ou quand c'est du gazon, bizarrement. Donc ça laisse une petite couche d'humus noir en surface. Autre point, la couverture hivernale du sol. Alors bon, moi le premier est bien conscient de l'intérêt des couvre-sols d'hiver. D'ailleurs, c'est un objectif d'essayer de les pratiquer de plus en plus. Pour l'instant, on n'en fait pas. On a eu fait de la fèverole notamment avec des bons résultats. C'était intéressant. Aussi, au mois d'octobre, en fait, sitôt qu'on commence à lever un petit peu le pied, parce que du mois d'avril jusqu'au mois de septembre inclus, on a beaucoup de boulot. On prend une semaine de congé, on se barre, on commence à hiverner, en fait, et puis on néglige de mettre en place les couvre-sols d'hiver que pourraient être l'avoine et le seigle associés à des légumineuses et tout ça, quoi. Alors, sur une partie du jardin, on mulche un bon coup, on le fait en ce moment. Là, c'est du gazon étalé entre des plants de d'ail qui commencent à pousser. Ici, c'est du bois broyé, donc sur des planches d'artichaut. Ça, c'est des photos qui datent de 3 jours. C'est du boulot qu'on fait en ce moment. Ici, là, c'est 2 planches côte à côte. Une où il y avait des haricots, où on a raclé, arraché, racines comprises, les plantes de haricots. Et sur le 5e à peu près de la surface de la planche, on a déposé un petit mulch irrégulier avec les fans de la culture. Et le reste, on le gérera autrement. Et à côté, il y a une autre planche ou deux qui porte en fait de la végétation spontanée, celle qui démarre en fin d'été ou début d'automne. Et cette végétation va rester là très probablement tout l'hiver sans qu'on y touche, et puis au printemps on avisera. Donc des fois au printemps il y a pas mal de boulot à la houe pour nettoyer, mais enfin bon. Ça c'est la culture de tomates qu'on a vue tout à l'heure à peine plantée, donc la photo date de la semaine dernière. On a rassemblé les fans des tomates plus ou moins sommairement sur l'axe des planches, et à l'endroit où il y avait le passe-pied, qui avait été géré par un sarclage à 2 reprises cette année à la houe à pousser, on a les herbes d'hiver qui commencent à pousser. Donc c'est, chez nous, c'est beaucoup le mouron blanc, c'est le lamier pourpre, c'est ce genre d'herbes qui sont caractéristiques des sols riches en azote et qui font un très très bon travail. D'ailleurs, il y a aussi le gaillet gratteron, tout ça, qui font un très très bon travail d'amenuisement superficiel sur 10 cm avec des systèmes racinaires très très denses. Donc ces plantes-là, elles ne font pas peur. Enfin, il y a des plantes qui nous font qu'on craint encore, hein, les vivaces en particulier, le chardon, le liseron surtout, qui est omniprésent. Mais les herbes d'hiver, pas tant que ça. Ici, on va voir tout à l'heure, on a une méthode de culture, c'est même pas une méthode, mais enfin un motif qui est la culture sur compost de bois. On va en parler un peu plus tard. Ça, c'est un tas de compost de bois qui est cultivé. Là, cette année, il y a eu des pommes de terre et des courges. Et cette semaine, donc, la photo date de 3 jours aussi, c'est envahi de mourons. C'est du mouron à 90% là. Donc sur du compost de bois, en fait, au printemps, si on le laisse pousser, au printemps, on a une, avec le croc, là, cette fois, on l'arrache. Et puis dans la semaine, on peut, même des fois plus tôt que ça, on peut reprendre une culture. Voilà, là, c'est des planches mulchées avec du mouron, précisément, arrachées sur place et concentrées. Donc ça va rester tel pendant 3 ou 4 mois avant qu'on le reprenne. Autre technique, alors le paillage plastique, donc bon, on n'est pas spécialement fier d'utiliser du plastique, mais ça nous rend bien service. Donc on utilise peut-être sur 700 ou 800 mètres carrés du plastique de paillage, notamment pour les cucurbitacées. Ça, ce qu'on voit là, c'est pris au mois de mai. C'est du vieux plastique qui a déjà servi 2 ou 3, c'est du plastique une saison de 20 microns. Qu'on utilisait d'ailleurs classiquement dans le verger, parce qu'on a un petit verger jeune qu'on a planté au fil du temps. Et donc ces feuilles de plastique très fines, elles ont 2 ou 3 années d'usage sans les toucher, parce qu'en fait on déroule le plastique dans la végétation, dans l'herbe de la prairie, enfin par-dessus, et on le stabilise avec du bois broyé ou du gazon, déposé dessus en quantité suffisante pour pas que le vent arrache le plastique. Et donc les vieux plastiques, on les récupère facilement puisqu'on n'a qu'à tirer dessus pour les récupérer sans les déchirer. On en met 2 couches une sur l'autre pour que les trous et les déchirures ne correspondent pas et ça repart pour 2 ans de plus. Donc à ce régime-là, on a peut-être 700 ou 800 mètres carrés couverts de plastique en consommant à peu près 10 kilos par an seulement. Et puis en pouvant l'enlever intégralement. Donc après, on sème directement dans des trous, on fait un trou au quêter, on dépose en surface les semences de potimarron ou de butternut ou autre, on les couvre d'un mélange de terre et de compost, une pelletée, et puis on laisse le démarrer. J'ai pas de photo, ça c'est un plan de pastèque, j'ai pas de photo d'ensemble, mais ça marche très bien. Autre motif, alors ça, bon, je vous le montre, mais je pense que ça sera très difficile à généraliser. C'est la culture sur compost pur de bois broyé. On a eu celle-là. Alors, il n'y a pas de... on reviendra dessus. Celle-ci, là, ça, c'est un plant de courge longue de Nice qui démarre sur du gazon, sur un tas de gazon à demi-composté. Donc, ça, c'est du gazon livré début 2011. Qui a été retourné une fois, qui est assez épais, qui est à demi composté et sur lesquels on a estimé que c'était suffisamment évolué pour semer directement les semences de longue de Nice. D'ailleurs, c'est un petit spot qu'on a un peu à l'écart où on a fait de la semence cette année, pour pas qu'il se. Sinon, le plus qu'on a pratiqué, c'est sur du bois broyé. Ça, là, on est sur des tas de bois broyé. Là, la photo date de 2005 ou 2006. C'est une culture de potimarron sur des tas de bois broyés qui ont été déposés là 4 ou 5 ans auparavant. Et au moment où on a fait le semis, ils étaient à demi-compostés, donc ils avaient perdu à peu près la moitié de leur volume initial. On voit à peu près, ici, il y avait 3 ou 4 andins. En fait, on avait fait livrer par une grosse entreprise d'élagage des quantités de bois assez phénoménales. Il y a peut-être 100 de camions de 25 mètres cubes ou quelque chose de ce genre-là. À 2 ou 3 endroits sur la prairie. Et donc après, sitôt que ça a été demi-composté, on a trouvé que ça devait passer. Donc on a semé directement les graines. Il n'y avait aucune végétation dessus, c'était stérile. L'année où on a semé les premières graines, en fait, c'est qu'on a vu germer et commencer de pousser. C'était 3 pieds de salsifis sauvage qui étaient, mais d'une luxuriance impressionnante. Et donc ils nous ont fait penser que c'était bon, quoi. Et dont les courges ont marché du tonnerre dessus. Ça, c'est la récolte des butternuts à cet endroit-là. On voit encore le dessin, le profil des andaines de bois qui avaient été déposés à cet endroit-là. Et aujourd'hui, au même endroit, il nous reste une couche de 10 à 15 cm de compost pur, couche qui s'amenuise au fil du temps. On perd quelques centimètres tous les ans. C'est évidemment extrêmement favorable à tout point de vue, parce qu'au point de vue fertilité, au point de vue maintien de l'humidité, et puis au point de vue facilité de sarclage et d'entretien. Et pour les pommes de terre, ça nous offre une solution intermédiaire avec la plantation en surface et le mulch de feuilles ou de paille qu'on commence à pratiquer et qu'on va essayer de généraliser. Parce que sur ce compost, en fait, la culture manuelle est très facile, que ce soit sarclé, buté, récolté. On n'a pas besoin d'outils, donc on le fait entièrement à la main. Voilà, donc ça c'est pareil, des pommes de terre sur un lit de compost de bois broyé. Et sur les bords du lit, où il n'a pas été déposé de bois du tout, on met du plastique et on plante des courges qui prennent le relais des pommes de terre qu'on récolte chez nous en général assez tôt, courant juillet, début août pour les dernières. Et donc les courges prennent le relais, on fait deux récoltes sur le même tas. Sachant que les courges, elles font des pousses de 8 à 10 mètres facilement, quoi. Voilà. Ça c'est une compost de bois qui, au moment où a été prise la photo, date de 7 ou 8 ans de dépôt. Donc c'est classique. Début de culture, donc on a commencé l'an dernier à toute petite échelle. On dépose de la matière organique sans trop choisir. En général, il y a plus ou moins du bois ou du ligneux dessous. C'est soit des vieux bambous, des vieilles cannes de Provence qu'on a, soit des fagots de bois qu'on a laissé dehors un an ou deux et qu'on a écrasé en les fougant, en fait. Par-dessus, des herbes arrachées dans le jardin, des fanes de légumes, les déchets de cuisine aussi qui vont. Donc on empile ça en andaime pendant quelques mois et ensuite on le couvre de terre rapportée sur 10 ou 15 cm, pas plus, un peu de compost et on plante. On les a mises à 1,80 m d'axe à axe, elles aussi, selon le même schéma de culture que nos planches non piétinées. Voilà, ça c'est une autre vue d'une butte en cours de formation. Ça c'est juste avant la plantation, avec un dépôt de compost dessus. Donc du compost avec tous ces tas de bois broyés qui ont composté sur place, tout ce gazon qu'on n'utilise pas qui composte sur place. On a du compost à foison. Donc on n'achète jamais d'engrais. On achète 10 ou 15 sacs de terreau de semis tous les printemps là, pour faire notre pépinière, puisqu'on se fait les plants. Mais on n'a jamais acheté aucun engrais, quel qu'il soit. Donc là, c'est des poivrons et des aubergines sur ces buttes toutes jeunes. Voilà. Et ça, c'est l'état de la butte. Après, c'est la semaine dernière, deux petites buttes où il y avait des tomates qu'on a mulchées avec des fanes de choux et des résidus de culture provenant d'un peu plus loin. Voilà, même chose, but après la récolte. Alors, juste une petite parenthèse sur la luzerne d'Arabie. Bernard a très bien parlé tout à l'heure de la végétation spontanée. Parmi la végétation, enfin les plantes qui poussent couramment dans notre jardin et dans beaucoup de jardins et vergers en hiver, il y a la luzerne d'Arabie, qui est une petite légumineuse basse annuelle ou bisannuelle, disons, qui germe en été. Et qui meurt, qui sèche, qui a la gentillesse de sécher complètement en fin de printemps, entre le 1er mai et le 15 juin, selon les années, qui est spontané, qui est un excellent fourrage, par parenthèse, mais qui peut, par endroits, former des couverts spontanément suffisamment denses, quitte à pratiquer dedans un petit peu de désherbage sélectif en arrachant quelques chardons ou quelques graminées. Elle peut arriver à faire un couvert de 40 à 50 cm homogène, très étouffant, jusqu'au mois de mai. Et donc après, elle dégénère, elle sèche, et elle laisse le sol libre pour planter. Alors là, j'ai pas grand-chose. Ça, c'est cette même luzerne en fin de cycle. Bon, si la photo était nette, on distinguerait les fleurs. Donc elle fait un pivot, contrairement au trèfle qui colonise par ses stolons, en fait. Elle fait un pivot, elle pousse en rayon, sur un mètre à peu près de rayon autour du pivot. Et puis après, elle sèche complètement. Voilà, et dans le mulch de luzerne, là, cette fois-ci, c'était des choux. Mais sinon, on a planté, d'ailleurs, ça n'a pas très, très bien marché parce que le chou a eu du mal à reprendre pour plein de raisons. Mais on y a planté avec succès, les trois dernières années, des tomates, des aubergines, des physalis ou même des courges, les petites courges que pomarines, pommes d'or, etc. Ceci dit, une fois que ce mulch a séché, il est très fin. Et donc, si on n'a pas une culture qui couvre rapidement, il faut s'attendre à devoir faire du sarclage ou arracher quand même. Mais bon.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle la minette ou est-ce que c'est la luzerne d'Arabie ?
Alors, la luzerne d'Arabie n'est pas exactement la minette. La minette, c'est Medicago lupulina. Celle-là, c'est Medicago arabica ou maculata, selon les flores. Elle n'a pas exactement le même comportement. Ce sont deux plantes proches. On a de la minette dans la prairie, spontanée. Et la luzerne, elle, colonise spontanément, je pense, les sols plus fertiles, mieux, plus riches en humus. Voilà, je ne sais pas quel serait le potentiel de la minette dans ce type de schéma. Mais celui-là, c'est bien la luzerne d'Arabie. J'ai regardé sur les flores, je la prenais pour la minette, d'ailleurs, il y a quelques années encore. Je vous montre quelques images. C'est juste un test, donc on va aller assez vite, qu'on a mis en place cette année avec le technicien de la Sotexto, pour ne pas la nommer, qui est un fabricant de feutres et de rouleaux de paillage qui servent en replantation de haies ou plantation d'arbres, notamment. Et cette année, il nous a laissé deux échantillons. Donc là, ils sont à la queue-leu-leu sur la planche. Là, on ne voit pas la différence, mais il y a une légère différence de couleur entre les deux. C'est un tapis de chanvre d'un côté et un tapis de laine de mouton de l'autre, qui font à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Donc il n'y a pas de fibre synthétique, c'est du pur. Et l'idée, c'était de tenter de semer directement sur le tapis, par-dessus. Donc avec l'espoir d'avoir zéro désherbage à faire jusqu'à la récolte. Bon, le résultat est assez mitigé. Il y a des trucs qui ont bien marché parce que j'ai mis là-dessus une dizaine d'espèces. J'ai semé des oignons, des laitues, des poireaux, des radis, des épinards, de la mâche, etc. Bon, donc je passe un peu un vieste là-dessus parce que le résultat est assez médiocre en fait du fait que la plupart des... Il a fallu arroser tous les jours. J'ai semé début septembre, là, le 5 septembre. Et tant qu'il ne s'est pas mis à pleuvoir et passer au temps frais, il a fallu arroser tous les jours, sinon les plantules souffraient. Tout a bien germé. J'ai déposé un petit andaine de terreau par-dessus chaque rang de semis pour mettre les semences à l'abri. Ça a bien germé. Et ensuite, la plupart des plantes voient leur système racinaire confiné dans le tapis et ont du mal en fait à percer, à passer à travers. Donc ça, c'est des carottes qui ont germé et puis qui ensuite ont dégénéré. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, alors pour finir, je vous montre une image, ça c'est un profil de sol qu'on a fait avec le stagiaire la semaine dernière. Là. Le fond du trou est à 70 cm, on a trouvé 10 cm en surface d'une terre très noire et très grumeleuse, vraiment en parfait état. Et dessous, on a trouvé deux horizons, le premier sur 25 cm légèrement lessivé, le second en dessous, horizon d'accumulation avec des traces minimes d'accumulation, des racines, notamment des rhizomes de liserons sur toute la profondeur, parce que c'est un coin à liserons celui-là particulièrement. Le sol, disons, dans l'état en fait où il était, à vue d'œil comme ça, sans analyse, dans l'état où il était quand on a mis ce terrain en culture il y a 15 ans, avec malgré tout la formation d'un horizon très superficiel, très très noir. C'est sûr que là, en accumulant en force du gazon, du bois broyé, etc., il a été apporté une quantité de matière organique assez importante. Et de n'être pas perturbé, en fait, il y a un sol qui est en très bon état et qui correspond à ce qu'on observe au niveau des cultures. Ici, je vous montre, là, on va peut-être prendre la minute qu'il faut pour le lire, les principales données technico-économiques de notre production légumière. Hein, parce que chez nous, bon, sur 4 hectares de propriété, les légumes font 98% du revenu, puisqu'après, on a quelques figues et quelques pêches à la saison, mais c'est négligeable. Hein. Donc, 5 mm² en cumulant la totalité des parcelles cultivées en légumes, environ 2500 heures par an, mais ça c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce qu'on n'enregistre pas le temps de travail, donc c'est une estimation assez sommaire. 12 tonnes de légumes récoltés, c'est une estimation assez sommaire aussi, mais sans doute pas très éloignée de la réalité. Ravageurs et maladies, bon, c'est assez étonnant, mais depuis 2 ans, enfin à mesure qu'on fait plus de mulch, on a moins de limaces. Depuis 2 ans, on n'a même pas ouvert les boîtes d'anti-limaces, chose qui c'est la première fois de ma carrière qu'on a pu se dispenser d'antilimaces. On a observé énormément de crapauds, par contre, et des gros, partout dans le jardin. Ravageurs et maladies, donc très très peu. Enfin, on pourrait faire la liste, il y a 4 ou 5 insectes qui continuent de poser problème, les altises, les doryphores et ces trucs-là, mais très peu. Et des maladies provenant du sol, on aura jusque-là, de toute façon, pas de problème. Voilà, donc ensuite les données économiques, vous voyez, ça, c'est un schéma tout petit, hein, 25 000 euros de chiffre, 1 500 euros à peu près de revenus mensuels en cumul, enfin, pour les deux postes de travail que ça représente. Donc c'est petit, mais c'est très stable. C'est... Et puis bon, le niveau de charge est très faible. Bon, pas de machine, pas de, d'emploi salarié. Très peu de semences, puisqu'on en produit aujourd'hui plus de la moitié. Voilà. Alors, pour finir, juste trois points, puisque bon, tout ça, ça évolue un peu au fil du temps, au fil de notre disponibilité, de notre humeur. Pour l'instant, notre objectif, ça serait de systématiser le paillage davantage encore pour diminuer le temps de sarclage qui est encore un poste de travail assez lourd. En sachant que malgré tout, ce paillage, tant qu'on le fait avec des matériaux importés, en fait, on est dépendant de cette ressource en matière organique qui est très abondante, qui est gratuite, mais qui, de toute façon, quelque part tôt ou tard, peut poser problème et peut aussi contrecarrer l'idée de généraliser ce mode de culture. Donc on est parfaitement conscient que ça serait mieux de limiter la dépendance envers cette ressource. Donc l'idée, ça serait de développer essentiellement les couvre-sols d'hiver, puisque bon, en saison, la totalité de la surface des 5 mm sont saturées de légumes, c'est difficile d'intercaler des couvre-sols pendant la saison. Par contre, en hiver, il y a les trois quarts du jardin qui sont nus, et donc là, on pourrait sans doute avoir des couvre-sols plus productifs et plus intéressants, notamment les graminées. Donc là, on peut cultiver du maïs pendant la saison, peut-être, mais hors saison, le seigle, l'avoine et le blé, à la fois parce qu'ils produisent de la biomasse épigée, mais à la fois parce que le système racinaire fait un travail que sans doute il manque dans nos sols en profondeur. Bon, mais ça, après, ça dépend de l'énergie qu'on a au mois d'octobre pour mettre ça en place, hein. Autre idée, d'associer davantage les cultures. Là, on sait qu'on a un potentiel, on ne l'a pas fait, mais on se dit que ça serait intéressant de prendre une photo tous les 15 jours à poste fixe dans plusieurs endroits du jardin et d'évaluer après, en fin d'année, le taux de couverture, c'est-à-dire le taux de feuilles exposées au soleil, en évaluant les feuilles des plantes cultivées et les feuilles des végétaux spontanés, et le taux de sol nu ou de paillage nu, pour évaluer l'efficacité de la captation de la lumière solaire pour la photosynthèse. Et je pense que là, on a encore une grosse marge de progrès. Voilà, je crois que j'ai fini.
C'est bon ? On a 7-8 minutes pour des questions.
Tu as dit que tu utilisais du broyat de résineux. Est-ce que tu remarques une différence quand tu utilises du broyat avec un taux de résineux important ?
La réponse, c'est non. Alors, tel que nous, on l'utilise, hein, c'est-à-dire déposé en surface, en couche relativement mince en général, soit frais, soit quelques mois après le dépôt. C'est de la sapinette, c'est du peuplier, c'est de l'acacia, c'est du mélange déjà. On n'a pas observé de différence. On est sur un sol qui est en très bon état et qui donc a la capacité de digérer, voire de contrecarrer une éventuelle influence négative, je pense, mieux qu'un sol épuisé. On a eu un souci une année, il y a longtemps. On avait fait à titre d'essai un mulch de sciure de bois frais, sciure de sapin fraîche. Et là, par contre, on a eu l'impression que ça désherbait tout, légumes compris, quoi. Voilà, mais on a fait ce test qu'une fois, ça n'a pas duré longtemps. Non, sinon, pas de différence.
Tu as parlé de canne de Provence. Est-ce que vous l'utilisez ?
La canne de Provence, on a 40 mètres de haie de canne de Provence qui pousse très bien. On n'a pas testé pour l'instant. Mais c'est une ressource dont on dispose sur place. Ça produit beaucoup de biomasse, on y pense, mais pour l'instant, on n'a pas testé.
Tu as une idée de la quantité d'eau que tu utilises ?
Oui, 5000 mètres cubes à l'hectare. Donc nous, on est dans la partie la plus sèche de la Haute-Garonne et dans la partie où l'ETP est maximal aussi, par rapport au Comminges ou par rapport au piémont de la Montagne Noire. Et sur des sols qui sont relativement superficiels, enfin là, il y a 50-70 cm, et qui sont séchants parce qu'il y a peu d'argile. Le constat, c'est qu'une semaine après une inondation, parce qu'en plus c'est inondable, les légumes les plus sensibles commencent à souffrir de la soif si on est en pleine saison et qu'il ne pleut pas. Donc on arrose beaucoup. On arrose environ à 4 ou 5 000 m3 à l'hectare. Moitié pour le jardin, moitié pour le verger, en gros. C'est-à-dire 50 m3 par jour, hein, parce que c'est sur une centaine de journées. Donc.
Comment vous arrosez, goutte à goutte ou aspersion ?
On fait les deux. la moitié du jardin est sous goutte à goutte, l'autre moitié sous aspersion. En gros, on a mis en goutte à goutte les cultures espacées, notamment les courges, les tomates qu'on met à 1,80 m. Et après, tout le reste, grosso modo, c'est de l'aspersion.
Dans le système que vous avez mis en place, comment vous gérez les semis, par exemple de carottes ou autres?
Oui, alors, pour les semis de graines fines, en fait, on fait beaucoup de semis en place. On sème les fèves, les haricots, le fenouil, la betterave, les navets, les radis d'hiver, les carottes, tout ça, on le sème en place. Là, on affine en surface avec la houe à pousser et puis les outils manuels. On ouvre un sillon, on dépose la graine à la main, on referme le sillon. Et puis, sitôt que c'est né, on fait un désherbage sur le rang et après, en général, on mulche. Par contre, pour les cultures plantées, comme les oignons, les poireaux, tout ça, on fait les plants, on dépose le mulch et on plante à travers. C'est sûr qu'on, jusque-là, on démarrait la culture sur sol nu, on faisait un désherbage entre les rangs et sur le rang, et on mulchait après, et maintenant on mulche avant parce qu'on gagne beaucoup de temps.
Pierre, comment est-ce que tu gères ton liseron?
C'est lui qui nous gère. Donc on passe beaucoup de temps à arracher du liseron. Il nous inquiète pas plus que ça parce que bon, il nous domine pas, c'est nous qui, c'est-à-dire.
Sur tes tomates là, par exemple.
Alors, par exemple, typiquement, les tomates, l'endroit où on les a mis cette année, il y avait beaucoup de chardon sur la moitié de la planche de la culture et du liseron partout. Donc on a planté les tomates sous ce mulch assez épais. Il y avait du papier kraft qui a ralenti pendant 15 jours peut-être la sortie du liseron. Après il est sorti, donc j'y suis passé 2-3 fois, arraché du chardon et du liseron, mais assez rapidement. Et puis après, les tomates ont tellement bien poussé qu'il n'y a plus de soucis. Là, cette année, j'ai pas de photos, mais c'est dommage parce qu'elles étaient vraiment très très belles. Elles ont donné peut-être 15 à 20 kilos par pied, donc elles sont à très grand espacement, hein, mais c'est que des variétés anciennes. Elles sont à 1,80 m entre les rangs et 1 m sur le rang, et non taillées. Donc c'est des plantes très, potentiellement très puissantes, mais du coup, quand ça pousse après, il n'y a plus rien qui pousse dessous. Hein.
Alors une autre question, comment tu mènes les poireaux?
On fait les plants au printemps sur des terrines de terreau et puis on les plante début d'été. Et puis voilà, on sarcle, on désherbe manuellement, on contresème entre les rangs avec des radis et des épinards quand c'est le moment et quand on peut. Je sais pas si y a la question.
Est-ce qu'ils sont butés?
Non, on bute pas. On bute rien. À part les pommes de terre. Du coup, ils n'ont pas beaucoup de blanc. Bon. Mais on pourrait, hein, parce que là, sur le tas de compost, il serait très facile à buter sur 10 ou 15 cm. Mais jusque-là, on néglige. On n'est pas très, très attentif à nos cultures, en fait. Hein.
Il reste du temps pour une question. Je crois que j'avais vu un... Oui.
Vous avez parlé que vous cultiviez sur des tas de bois. Est-ce que vous pouvez préciser?
Donc, en fait, en arrivant... Parce que ce terrain, on l'a acheté en 97. On s'y est installé en 98. On a commencé à le cultiver en 99. Mon idée, c'était de faire un stock de matière organique, parce que je savais que les élagueurs étaient encombrés de bois broyé, je savais que les communes généraient du gazon, ne savaient pas quoi faire, donc j'ai pris le téléphone et j'ai fait la tournée, et au bout de 15 ou 20 coups de fil, j'ai eu quelques apports en petite quantité, et surtout une grosse boîte d'élagage qui m'a apporté pendant 2 étés de fil des quantités de bois astronomiques. Bon. Et donc, c'était ma réserve d'humus. Je savais que ça allait composter. Je ne savais pas trop le temps que ça allait mettre, mais je savais que ça allait composter. Et donc, au départ, on a touché à rien. On a laissé ça composter sur place. Au bout de 4 ou 5 ans, on a observé que les adventices commençaient, la flore spontanée commençait à germer dessus et qu'elle poussait très bien. Et donc, à ce moment-là, au départ, les pommes de terre et les courges vont bien. Et je pense que les tomates iraient bien aussi. Par contre, faire des carottes, semer des carottes dans des éclats de bois grossiers, c'est peut-être pas évident. Mais sitôt qu'on a passé... Un an ou deux après ce stade, en fait, on a un substrat où il reste encore des éclats de bois, mais il y a suffisamment de poudre d'humus, de compost, pour qu'on puisse faire toute culture. Hein. Et aujourd'hui, ça s'est amenuisé beaucoup parce que ça continue de se minéraliser, tout ça. Mais par contre, on a, c'est un peu du hors-sol naturel, quoi. On a une couche artificielle et naturelle à la fois de bois de compost de 10 ou 15 cm d'épaisseur. Et dessous, on a le sol, on voit très bien la transition. Et le sol normal, la boulebène qu'on a dessous qui est blanche, je ne sais pas si ça répond à la question.
Est-ce que c'était du bois broyé ou est-ce que c'était des branches?
Non, c'était broyé. C'était broyé grossier.
Merci beaucoup, Pierre.